12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Reine mondiale et incontestée de la danse postmoderne et minimale, ses tout premiers solos sont revisités sur la scène du Quartz à Brest et une rétrospective lui est consacrée à Reine. Lucinda Childs sera mon invitée à partir de 13h. Mais d'abord, on passe par la critique. Aujourd'hui, deux expositions à voir à Paris. Le photographe italien Guido Guidi est à l'honneur au bal et les dessins terribles de Raïm Kalisky sont exposés au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Vous écoutez les midis de culture, promis, le voyage sera beau. Et pour en parler aujourd'hui autour de la table, mes camarades Stéphane Coréard, éditorialiste au Journal des Arts, bonjour.
Bonjour Marie.
Philippe Azoury, journaliste critique et auteur, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux.
Non voglio che intervenga troppo la consapevolezza.
Je ne veux pas que la conscience intervienne trop dans le processus de fabrication. Alors quand je prends une photo, je regarde ailleurs, je me prépare, mais la photographie se fait dans l'instant. C'est l'élaboration qui est longue, préparer, démonter, assembler, mais pas la photographie. Sinon, je ne serais peintre ou dessinateur. Le dessinateur a besoin de plus de temps. Le temps de gestation est le même que celui de l'exécution, alors que pour la photographie, c'est instantané.
Guido Guidi, un des artistes majeurs de la photographie européenne contemporaine, à qui cette exposition au bal à Paris est consacrée, née en Italie en 1941. Guidi se voyait plutôt architecte ou peintre, mais la photo, par son honnêteté, sa franchise, l'emporte sur le reste. En 18 séquences, l'exposition du bal retrace son parcours, de ses expérimentations en noir et blanc, il y a 60 ans, à ses photos couleurs qui saisissent le temps en fuite, avec, comme fil conducteur toujours, son attention égale au banal ou à la perfection. D'une ligne de fuite. Pour Guidi, un visage, un paysage à l'abandon, un geste architectural mérite le même regard. On commence avec votre regard d'ailleurs, en quelques mots, Philippe Azoury.
Oh, mon regard. Non, c'est plutôt sur sa voix, entendre la voix de cet homme qui a 85 ans, qui a connu une célébration assez tardive, une dizaine d'années, on y reviendra. Ça fait à peu près 12 ans qu'on le reconnaît enfin en dehors de l'Italie. C'est quelqu'un qui, à mes yeux, puisque vous parlez de mon regard, Marie, et de la trompe, ou en tout cas s'inscrit dans la lignée de Walker Evans, d'Eggleston, de Paul Graham aussi, et de plus en plus à Paul Graham, je pense, quand je vois ces photos. C'est quand même quelqu'un qui a une position assez effacée, discrète, sans doute parce que très très longtemps, il était difficile d'apposer des mots sur son travail. C'est un travail, il parlait d'instinct, enfin quasi immédiat, qu'il était difficile de théoriser, et je trouve que là, dans cette expo qui s'appelle Col Tempo, qui est très très différente des précédentes expositions qu'on a pu voir de lui, qui est une expo qu'il a lui-même dirigée alors qu'il a 85 ans, c'est presque... Je me suis toujours détourné d'adieu, je suis critique de cinéma, j'ai dit ça à Manuel de Oliveira, qui avait 85
C'était
ans, il a fait des films jusqu'à 106 ans, donc depuis, quand quelqu'un de 85 ans fait quelque chose, ça n'est pas une tournée d'adieu. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il y a une tentative de relecture et peut-être de théoriser davantage, au dépens peut-être de l'humain, c'est une toute petite variation, mais c'est pour moi un très très grand photographe.
Stéphane Coréard, en quelques mots.
Oui, c'est toujours une découverte nécessaire, je dirais. Effectivement, il y a eu une exposition à Paris il y a 12 ans à la Fondation Cartier-Bresson, qui, je crois, a lancé un petit peu un nouveau regard sur ce travail, qui a sans doute été un peu éclipsé par son génial contemporain Luigi Ghiri, autre grand photographe italien qui, je crois, avait 2 ans de moins. Tous deux, en effet, ont redessiné le paysage italien, finalement, chacun à leur manière. Ghiri, sans doute plus démonstratif, plus ostentatoire, alors que, justement, il y a une forme de modestie, mais plutôt même de retenue dans le travail de Guidi, qui, je trouve, donne, paradoxalement à cette œuvre, toute sa puissance.
Alors, Philippe Azoury, en quoi, justement, vous faites bien de le rappeler, cette exposition qui s'appelle Col Tempo, éclaire, donne un nouveau cette œuvre de Guidi.
Il faut presque la mettre en contre-champ avec l'exposition de la Fondation Cartier qui avait été, je crois, curatée par Agnès Cyr en 2014, qui tournait autour d'un livre qui doit encore se trouver chez Mac, qui restait son éditeur jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Veramente, où on voyait vraiment le travail, on découvrait le travail de Guido Guidi. Donc il y a 12 ans, il avait 73 ans, 72 ans. Donc on voit vraiment, enfin, qu'on était devant une œuvre accomplie qui n'avait quasiment pas été exporté en dehors de l'Italie. Et on voyait une œuvre qui, à ce moment-là, était traversée de deux lignes différentes. La première était très, très architecturale, très basée sur le temps. Et la deuxième, quand même, sur une rencontre avec l'humain. Et ce qui me surprend, moi, dans Cold Tempo, donc dans ce grand travail introspectif qui est au bal, je crois qu'il y a plus de 200 photos, quelque chose de cet ordre-là, et le livre qui l'accompagne, quasiment le double, hein, je crois que c'est autour de 350 photographies, c'est que malgré entre 200 et 350 photographies, c'est toujours l'humain qui a été écarté, au profit d'un travail qui est présenté comme beaucoup plus conceptuel, mm-hmm. beaucoup plus basé sur la façon de... que peut avoir un photographe, non seulement de saisir un instant précis, mais également de le déplier en série de temps, et d'obtenir une émotion à partir de là. Et c'est là où j'étais assez frappé, c'est que c'est un très très grand coloriste, Guido Guidi. C'est quelqu'un qui arrive à aller chercher dans l'Italie du Nord, des couleurs froides, mais qui sont quand même poignantes. Et qu'à ce sens-là, c'est finalement une certaine jeune photographie anglaise, comme on l'appelait dans les années 80, qui me fait penser. Tom Wood, le tout premier... le plus célèbre d'entre eux, c'est celui dont le nom m'échappe, qui est actuel, qui est mort il y a quelques jours, quelques semaines. C'est pas grave. Et à Paul Graham. C'est-à-dire vraiment, et Paul Graham, c'est quelqu'un qui est un Anglais qui vit aujourd'hui à New York, qui a commencé avec une photo qui était documentaliste, et qui progressivement s'est mis à faire des séries également pour saisir quelque chose du passage du temps et du passage de la lumière. Et c'est devenu, chez Guido Guidi, on s'aperçoit que dans sa relecture de ce qu'est aujourd'hui, à 85 ans, l'entièreté de son œuvre, la confrontation avec le corps humain, et quelque peu effacé, pour précisément amener des séries qui sont bouleversantes quand il fait rentrer des variations.
Je passe la parole à Stéphane Correa.
Oui, alors effectivement, que je parlais de Luigi Ghiri, c'est vrai qu'on retrouve ce goût parfois de l'image dans l'image, d'une certaine photographie sémiologique qui va rechercher l'archéologie des signes, en fait, dans le paysage, dans la ville ou dans la campagne, des traces aussi d'irruption d'une modernité dans un cadre qui, lui, serait celui du passé. Mais ce qui m'a frappé tout de suite, c'est les affinités entre cette photographie et l'art et l'architecture, notamment italienne de son temps. Guidi a étudié l'architecture avec Carlo Scarpa, qui n'est pas n'importe qui, il a étudié l'art avec Luigi Veronese. Et effectivement, on retrouve tout un tas de clins d'œil, je trouve, ou plutôt d'enseignements qu'il a pu prendre du côté du monde de l'art concret, de Bruno Munari, puisque la diagonale, par exemple, est son mode de composition préféré. L'art minimal aussi, avec ses parallépipèdes, cette lumière qui dessine, effectivement, qui vient presque creuser dans les espaces, parce qu'on est vraiment dans le cœur même de ce qu'est la photographie, c'est-à-dire rendre compte d'un espace avec de la lumière. Et ça, c'est vraiment l'essence de son travail, qui parfois, il pousse très loin, effectivement, dans un cadre presque conceptuel, notamment, je pense, à une des premières séries, où on voit une magnifique cadrage d'un mur, d'une chambre vide, peut-être abandonné, en fait, dans lequel la lumière rentre par la gauche, hein, sous forme d'un parallépipède très franc comme ça, qui vient découper l'architecture et en renforcer les lignes de force. Et puis à un moment donné, c'est là où effectivement il y a cette émotion qui naît, c'est qu'il y a la silhouette d'un arbre qui vient se découper, comme au théâtre, en fait, comme chez Bob Wilson, presque d'une certaine manière, dans l'espace. Et ça, c'est absolument magnifique. Et ça nous fait comprendre très vite que Guidi photographie ce que personne ne regarde. Quand on connaît les lieux qu'il a photographiés, on n'aurait jamais fait ces photos-là. Personne, d'ailleurs, n'a fait ces photos-là. Il y a la tombe de Brian, du fondateur de Brian Vega, qui a été faite par Carlo Scarpa, qui est un emblème de l'architecture moderne, hein, et avec notamment ces très spectaculaires ouvertures en cercle qui sont très caractéristiques. Mais lui, il photographie pas ça du tout. Il photographie l'ombre, une ombre oblique qui se reflète dans une flaque ou dans une étendue d'eau, et qui du coup forme une flèche. Et dans le séquençage, puisqu'il y a effectivement 18 séquences pour 200 images, donc une moyenne d'une dizaine d'images par séquence, en fait cette flèche à la fois progresse et diminue, finalement se raccourcit comme une espèce d'accélération du passage du temps, qui du coup fait de l'architecture et de la photographie ce memento mori qui est complètement au cœur même du projet de Scarpa pour Brian. Donc c'est vraiment d'une puissance conceptuelle avec presque rien, c'est-à-dire une ombre, un reflet dans l'eau, il arrive à déplacer en fait des montagnes conceptuelles.
Sur l'absence de l'humain, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, Philippe.
Non, mais quand Stéphane parle de la tombe à Brian, j'ai vu l'exposition assez tard, je l'ai vu hier en début d'après-midi, et c'est 10 photographies, hein, qui sont alignées. On peut passer très très vite, balayer du regard et dire ok, 10 répétitions, la sérialisation de l'image, on a compris. Et quand on se plonge seul face à ces images et qu'on capte chacune des variations, moi je me suis retrouvé face à une émotion que je n'arrivais plus à contrôler, j'en avais quasiment les larmes aux yeux, j'étais vraiment saisi. Et je pense que c'est réellement ce qui le guide, hein, sans mauvais jeu de mots, ce qui guide Guido, c'est qu'est-ce qui nous saisit, qu'est-ce que c'est qu'une émotion, pourquoi une couleur, pourquoi un pan de mur, pourquoi une fissure, pourquoi le reflet d'une flaque d'eau, ou alors l'ombre d'un arbre, peuvent à ce point, finalement, alors qu'ils sont hors narration, arracher chez celui ou celle qui regarde une émotion à ce titre-là. Et je pense que c'est là-dessus précisément qu'il a du mal aujourd'hui à accepter l'idée d'avoir fait des représentations d'humains qui étaient des représentations frontales pendant, je crois que vraiment les dernières fois, il semblerait qu'il ait vraiment photographié la figure humaine, ce soit aux alentours de 2007-2011. Ça a souvent été peut-être aussi des travaux de commande, c'était des travaux autour de la jeunesse, c'était quand même très très étonnant. Il y avait une vraie frontalité, il y avait un désir aussi presque de sociologie, enfin de tirer le portrait de ce qu'est sa région, parce que c'est quelqu'un qui vient de Ravenne, enfin vraiment du nord de l'Italie, un type particulier, enfin quoi, d'italianité. Et tout ça, réellement, aujourd'hui, est remis en question par cette lecture qu'il offre au bal, parce que l'essentiel des figures humaines sont des photos de ses tout débuts, fin des années 60, début des années 70, qui étaient des photos où l'humain était décadré, enfin c'était presque des photos accidentelles. C'était encore une époque où il se cherchait. Il travaillait déjà des séries, notamment la série Avec un homme, avec un journal, qui était déjà visible en 2014 à la Fondation Cartier-Bresson. Mais toutes ces séries sur des années 90, début des années 2000, où il inscrivait réellement la présence d'un corps dans une architecture et dans un cadre, est effacé. Je trouve ça, enfin, c'est un regret que j'ai, parce que ça donne aujourd'hui la lecture de quelqu'un qui est, ou à la fois, comme il le dit, enfin, l'émotion précède chez lui la théorie, mais qui voudrait arriver à acquérir sur le tard cette place théorique, finalement, que sa photo refusait, parce que sa photo ne donne pas accès directement aux mots, mais elle donne accès à une émotion qui est perceptible et qui est incroyable.
Stéphane Correa.
Oui, alors plus que théorique, je dirais que l'exposition est remarquablement pédagogique. Voilà. Remarquablement parce que c'est la pédagogie du photographe lui-même, c'est pas un discours qui est plaqué. Alors c'est sensible de plein de manières, il y a des photographes qui sont annotés dans les marges, il y a des notes pour des cours, il y a des schémas. On voit comment en fait il regarde l'image et comment il en transmet en fait la réalité, c'est-à-dire à la fois la matérialité et puis la composition. Donc ça c'est par touche, et puis je dirais que l'accrochage, évidemment la scénographie aussi, et je trouve remarquable, parce que elle accompagne totalement ce qui fait la caractéristique du travail de Guidi, c'est-à-dire ce mélange de rigueur et de sensibilité qui libère en fait ce carcan géométrique qui semble au départ marquer son travail. Je trouve qu'il y a des leçons qu'il faut retirer de ce travail, enfin moi en tout cas, qui n'avait jamais vu autant d'œuvres de lui. D'abord, c'est qu'il est toujours paradoxalement, pour un conceptuel ou un théoricien, attaché à la matérialité de l'image. Hein. Ouais. C'est une réflexion très forte sur la matérialité de l'image. Je parlais des tirages, des annotations, mais ça peut être aussi le fait qu'il photographie ce qu'on appelle à la chambre, hein, donc c'est pour avoir une netteté. Et il fait des tirages qui sont
très longs.
Voilà, qui sont exactement au format de l'original, sauf justement dans les années 60 où il fait des expérimentations.
D'ailleurs, c'est pas des grandes photos, c'est ça, hein.
Non, ce sont pas des grandes photos. Et la chambre arrive assez tard dans son. Je crois qu'il va acquérir une chambre au début des années 80 ou à la fin des années 70. Donc il y a 10 ans où il se cherche un peu et dès qu'il trouve la chambre. Et effectivement, c'est à la façon d'Eggleston, c'est pas du tout quelqu'un qui mitraille, c'est quelqu'un pour qui la prise de vue, la photographie, faire une photographie, c'est un acte quasiment sacré dont il essaie de tirer toutes les forces. Et faire plusieurs photographies pour avoir le temps, c'est un moment très très précis pour lui.
Je vous écoute,
oui, et puis on l'a entendu parler de cette instantanéité de la photographie, mais c'est surtout un artiste du temps long. Et ça, c'est vraiment remarquable, je trouve, parce que c'est une vraie position d'artiste, c'est un statement, comme diraient les anglo-saxons, parce que, je le disais, il n'est pas ostentatoire, mais pourtant son travail peut être qualifié de radical, d'expérimental, et même d'engagé, comme je l'ai dit, dans le temps long, mais dans une connaissance en profondeur des espaces dans lesquels il évolue, une certaine humilité devant la nature, les mystères, les beautés, les fragilités du vivant, du local, tout ça, je trouve, nous donne des leçons très opérationnelles pour aujourd'hui.
Guido Guidi, Col Tempo, c'est jusqu'au 24 mai au bal à Paris, le catalogue de l'exposition dont vous avez parlé, est disponible aux éditions Mac Le Bal.